On termine notre parcours de 4 prédications sur le thème de la relation fraternelle. Alors il y a, petit rappel, hein, parce que c'est les vacances, ça va, ça vient. Il y a 3 semaines, on avait vu que l'Église est avant tout un peuple que Dieu a désiré, un peuple qu'il a rendu possible à la croix, on l'a rappelé également ce matin, un peuple que Dieu a rendu possible en Jésus-Christ pour pouvoir ensuite l'unir en donnant son esprit à chacun des croyants. C'est ça qui fait l'unité des croyants, des chrétiens. Et ce même dimanche-là, nous avions découvert que le principe central sur lequel repose l'Église, le principe qui doit guider notre vie et nos relations entre chrétiens, eh bien c'est l'amour mutuel, réciproque. Aimez-vous les uns les autres. Il y a 2 semaines, nous avions vu 2 exhortations qui viennent un peu préciser le comment vivre cet amour mutuel. C'est bien beau de se dire « aimez-vous », oui, mais on fait comment ? Eh bien, tout d'abord, dans l'Épître aux Hébreux, nous avions vu cette exhortation, ce commandement, « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. » Puis dans l'Épître de Jacques, « Priez les uns pour les autres. » Et dimanche dernier, enfin, on avait réfléchi au commandement donné par le Christ dans l'Évangile de Marc, « Vivez en paix les uns avec les autres. » Si jamais vous voulez pouvoir écouter ou lire ces prédications, si vous n'aviez pas pu être là, elles sont sur notre site web, elangoulême.fr, en audio, en lecture aussi, vous pouvez les avoir. Et aujourd'hui, pour finir cette série, eh bien, j'aimerais aborder un autre des « les uns les autres » qu'il y a dans la Bible, il y en a plein, donc il a fallu faire un tri, et celui-là, je l'aime bien, parce que je pense qu'il est souvent très, très mal compris, voire pas du tout compris, et que ça peut faire de très, très gros dégâts, et que l'histoire de l'humanité nous montre à quel point ça a fait des dégâts, et encore aujourd'hui. Et ce passage se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, les versets 20 à 21. On va lire uniquement ces versets-là pour le moment. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Ouais, on lira la suite plus tard, vous inquiétez pas. Mais on va rester là pour le moment. Aujourd'hui, on va parler de soumission mutuelle. Et donc aussi de son opposé complémentaire, hein, l'autorité mutuelle. S'il y a soumission mutuelle, il y a autorité mutuelle. Alors c'est des choses qu'on a déjà abordées dans notre Église avec certains, dans des ateliers de discernement au ministère notamment, un atelier que nous proposons à nos membres, on en reparlera un petit peu à la fin de cette prédication, mais j'ai jamais exploré le sujet en profondeur en prédication. Je pense que c'est important de pouvoir le faire. Alors d'abord un mot sur pourquoi je pense que ces 2 notions d'autorité et de soumission sont souvent très mal comprises. Et là, pour une fois, le fautif, c'est le dictionnaire. Voilà. Les habitués de notre Église savent que souvent, on va piocher dans le Larousse. Ben là, pour une fois, le fautif, c'est le Larousse. Bon, en fait, lui, c'est qu'un livre. Il est pour rien. Le vrai fautif, c'est la compréhension que notre monde a de ces 2 notions d'autorité et de soumission. Alors, voici plusieurs définitions données par le Larousse du mot « autorité ». Droit de commander, pouvoir d'imposer l'obéissance, pouvoir de se faire obéir, supériorité de mérite ou de séduction qui impose l'obéissance, le respect et la confiance. Ça rejoint finalement pas mal la notion de pouvoir. L'autorité pour ce monde, c'est ce qui me rend supérieur aux autres. C'est ce qu'on voit dans ces définitions. Et c'est intéressant parce que l'origine du mot « autorité », c'est le latin « auctoritas », qui signifie « capacité de faire grandir ». Et il y a un peu de ça hein, dans la compréhension répandue, celle du Larousse, de ce monde, cette compréhension de l'autorité. Si j'ai l'autorité, ça me fait grandir, ça me rend supérieur par rapport aux autres. Et si l'autorité, c'est ça, eh bien dans ce cas, l'opposé, la soumission, eh bien ça revient à accepter cette autorité, c'est-à-dire à accepter d'être inférieur, à obéir. En quelque sorte, on l'a vu dans les définitions de l'autorité, qui entraîne l'obéissance Eh bien, c'est ça la soumission pour ce monde.
Obéir.
Et être inférieur, l'accepter. Ça, c'est la compréhension des humains en général. Mais dans ce cas, l'autorité et la soumission, ça ne peut pas être mutuel. On ne peut pas être mutuellement supérieur l'un à l'autre. Il y en a un au-dessus et un en dessous, mais il ne peut pas y avoir deux au-dessus l'un de l'autre. Ça n'existe pas. Ça ne marche pas, ça n'a pas de sens. Et on ne peut pas non plus s'obéir mutuellement. Comment s'obéir mutuellement ? Si moi je vous demande de prendre une chaise et de l'amener là-bas, et que vous me demandez de prendre la même chaise et de l'amener là-bas et qu'on s'obéit mutuellement, on va avoir un problème rapidement, ça va être compliqué, ça ne marche pas. Alors pourquoi Paul nous demande de nous soumettre les uns aux autres si ça n'a pas de sens ? Eh bien peut-être parce qu'il se réfère à une autre définition de l'autorité et de la soumission. Et cette définition, ce n'est pas celle du Larousse, mais c'est le Christ lui-même qui nous la donne. En Jean chapitre 13, d'abord au verset 4. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Et plus loin, au verset 12, après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se rassit à table. Alors il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de faire ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple, pour qu'à votre tour vous agissiez comme j'ai agi envers vous. » Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Que fait Jésus dans ce texte ? Il leur dit, il dit à ses disciples, « Je suis le Seigneur et Maître ». Il est en train d'affirmer l'autorité qui est la sienne. Et donc, il est en train d'affirmer que ses disciples doivent lui être soumis si c'est lui le Seigneur et Maître. Et ensuite, il lui montre sa définition, il leur montre sa définition de l'autorité. Il s'habille comme un serviteur et il se met au service de ceux qui lui sont soumis. Lorsque Jésus montre sa définition de l'autorité, il n'est nulle part question de pouvoir, de supériorité, de commander ou d'obéir. Il n'est pas question de grandir soi-même par rapport aux autres. Mais pour Jésus, la définition de l'autorité, c'est être capable de servir l'autre. Être capable d'apporter à l'autre ce dont il ou elle a besoin pour pouvoir grandir. Celui qui a l'autorité, d'après le Christ, ne cherche pas à grandir lui-même pour être supérieur, mais il cherche à faire grandir les autres. Et vous vous souvenez de la racine du mot autorité, ce mot latin auctoritas, hein, capacité de faire grandir. Eh bien, ce monde le comprend comme ce qui peut me faire grandir moi par rapport aux autres, ce qui peut me rendre supérieur. Alors que pour le Christ, l'autorité, c'est ma capacité à faire grandir l'autre en me mettant à son service. Et qu'en est-il dans ce cas-là de la soumission ? Eh bien, la soumission, c'est reconnaître que j'ai besoin de grandir. Et plus encore, reconnaître que j'ai besoin de l'autre pour pouvoir grandir moi-même. J'ai besoin que d'autres se mettent à mon service pour m'aider à grandir d'une manière qui plaise à Dieu, parce que tout seul, je n'y arriverai pas. Alors, avec humilité, j'accepte de recevoir leur service. Je me soumets à l'autorité des autres, c'est-à-dire que je me soumets à la capacité des autres à se mettre à mon service pour me faire grandir. La notion d'humilité est bien présente, mais ce n'est pas une infériorité. Si nous revenons à notre texte d'Éphésiens chapitre 5, où Paul nous demande de nous soumettre les uns aux autres, quel est le contexte de ce passage ? Dans le chapitre précédent, le chapitre 4, Paul nous enseigne sur le sujet du service mutuel, de la place de chacun au sein du peuple de Dieu. Chacun et chacune, hein, Et il nous affirme que tous les croyants reçoivent de Dieu un don pour le mettre au service de leurs frères et de leurs sœurs. Ces dons sont différents d'une personne à l'autre, afin de pouvoir vivre une parfaite complémentarité. Certains reçoivent la capacité de servir leurs frères et sœurs par leur enseignement, d'autres par leurs dons musicaux, d'autres par leur écoute, d'autres par leur sagesse, d'autres par leur organisation, d'autres par leur prière, d'autres par leur compassion, d'autres par leur aide matérielle, ou leur accueil, ou leur hospitalité, etc. Tous les croyants reçoivent de Dieu la capacité de servir leurs frères et leurs sœurs dans un domaine. Et souvenez-vous de la définition que le Christ donne à l'autorité, capacité de se mettre au service des autres. Donc nous pouvons dire que Dieu donne à tous les croyants autorité dans un domaine. Et à l'inverse, eh bien, tous les croyants ont besoin de leurs frères et sœurs pour pouvoir grandir à la ressemblance du Christ. Par exemple, moi-même, je vais prendre l'exemple que je connais le mieux, c'est moi, je peux vous servir ce matin par mon enseignement, parce que c'est le don que j'ai reçu de Dieu, le don qu'on a discerné chez moi et que l'on reconnaît chez moi. Et si vous m'écoutez ce matin, c'est que vous me reconnaissez cette autorité, c'est-à-dire cette capacité de vous servir par mon enseignement. Vous êtes donc en train de vous soumettre à ce que Dieu a fait de moi, ce dont Dieu me l'a donné. Je le mets au service, vous le recevez. Voilà l'autorité et la soumission pour que vous puissiez grandir. Mais moi-même, j'ai besoin de mes frères et sœurs pour grandir dans tout un tas d'autres domaines pour lesquels je n'ai pas reçu de don de Dieu. J'ai besoin de vous, de mes frères et sœurs, pour grandir en sagesse, en direction, en foi, en compassion, dans la pratique de la prière également. Je dois recevoir ce que Dieu donne à mes frères et sœurs dans tous ces domaines-là, parce que je n'ai pas reçu ce qu'eux ont reçu. Alors je dois me soumettre à mes frères et à mes sœurs, c'est-à-dire recevoir leur service, pour qu'à travers eux, le Seigneur m'aide à grandir à sa ressemblance. Vous voyez, dans cette compréhension de l'autorité et de la soumission qui nous viennent du Christ, eh bien, l'autorité et la soumission sont complètement mutuelles. Le Christ nous a montré, par l'exemple du lavement des pieds, que le peuple de Dieu, l'Église, doit vivre selon des principes d'autorité mutuelle et de soumission mutuelle. Parce que c'est ce qu'a fait le Christ pour nous en premier. Montrer son autorité en devenant serviteur de tous. Et parce que nous devons suivre son exemple afin de lui ressembler chaque jour un peu plus, eh bien, nous nous soumettons les uns aux autres. Nous nous mettons au service les uns des autres. Pour les humains, être soumis, c'est être inférieur. Et ce texte d'Éphésiens 5 a fait, je pense, des dégâts incroyables dans l'histoire de l'humanité, simplement parce que les gens ne comprenaient pas, je pense, ce que Paul voulait dire par autorité et par soumission. Ça a fait des dégâts, notamment avec la suite de ces deux versets. Parce que lorsque Paul dit « vous vous soumettrez les uns aux autres », il enchaîne ensuite en disant « vous vous soumettrez les uns aux autres, vous, femmes en particulier, chacune à son mari ». Et donc même les chrétiens ont pris ce texte pour dire « la femme est inférieure à l'homme et doit lui obéir ». Mais c'est faux. C'est complètement faux. Paul est en train de parler de soumission mutuelle, les uns aux autres, donc pas à sens unique. On ne parle pas d'obéissance ici. Et par cet exemple de l'homme et la femme dans la suite de ce texte, je ne vous lis pas la suite, mais vous pourrez la lire chez vous, eh bien Paul se base en plus pour comparer ce rapport entre l'homme et la femme, il se base sur le rapport du Christ avec son Église, du Christ avec ses disciples. Et nous l'avons vu par le lavement des pieds. Il n'y a aucune place à la supériorité ou au pouvoir dans ce rapport-là. Il n'est question que de servir pour aider à grandir. Pourquoi Paul pointe particulièrement cet exemple de l'homme et de la femme? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas pris d'autres exemples? Il y en a d'autres à la suite de ce texte. Il parle du rapport entre enfants et parents, du rapport entre maître et esclave. Mais pourquoi prendre cet exemple de la soumission de la femme et de l'autorité de l'homme. Pourquoi il n'a pas pris l'inverse? Pourquoi il n'a pas pris la soumission de l'homme et l'autorité de la femme? Eh bien parce qu'à cause du péché, le rapport entre l'homme et la femme est complètement tordu. Il est complètement tordu. Souvenez-vous de ce texte de la chute en Genèse chapitre 3. L'homme et la femme désobéissent à Dieu, ils plongent dans le mal, mais ce mal ne reste pas sans conséquences. Et une de ces conséquences concerne la relation entre l'homme et la femme. Et ce texte de Genèse dit « Ton désir, toi la femme, ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. » Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est une conséquence du péché. La domination de l'homme sur la femme vient uniquement du péché. Dieu ne le veut pas, Dieu a un autre projet pour l'homme et pour la femme. Et c'est ce dont l'apôtre Paul nous parle en Éphésiens chapitre 5. Paul, en Éphésiens 5, dit à la femme, « Jusqu'ici, tu te consacrais entièrement à ton mari. Tu te délaissais pour ne penser qu'à lui et à ses besoins. Tout en toi, tous tes désirs se portaient vers lui. Mais maintenant que tu appartiens à Christ, prends conscience que toi aussi tu dois grandir à la ressemblance du Christ. Et donc toi aussi, il te faut recevoir pour pouvoir grandir. Toi aussi, femme, il faut qu'on te serve pour que tu grandisses. Ton mari doit te servir pour que tu grandisses. Accepte-le, reçois-le, et donc soumets-toi au service de ton mari. » Paul est en train de dire aux femmes de ne pas faire que servir à 100%, mais qu'elles doivent aussi prendre soin de leur croissance personnelle. Elles doivent grandir. Et souvenez-vous, tout ce qu'on a dit depuis le début de cette prédication, pour grandir, nous avons besoin de nous soumettre à ce que les autres sont, à ce qu'ils peuvent nous apporter, au service que les autres nous apportent. Eh bien, si le mari sert sa femme pour qu'elle grandisse, elle montrera sa soumission en recevant ce que son mari lui apporte pour pouvoir grandir. Et de manière complémentaire, Paul dit à l'homme, « Jusqu'ici, vous avez pris l'habitude de dominer votre femme, de la garder inférieure à vous, dans l'obéissance, parce que vous étiez guidé par le péché. Mais maintenant que vous appartenez au Christ, comprenez que votre femme a besoin de vous pour grandir à l'image du Christ, parce que c'est le projet de Dieu pour elle. Elle est une disciple du Christ. » Et c'est votre rôle en tant que mari de vous mettre au service de votre femme pour veiller à ce qu'elle puisse recevoir tout ce dont elle a besoin pour grandir. Souvenez-vous de notre définition de l'autorité. La capacité à servir l'autre pour qu'il ou qu'elle grandisse, c'est en servant sa femme que le mari montrera l'autorité que Dieu lui donne, tout comme le Christ a montré son autorité en se mettant au service de tous ses disciples. Mais est-ce que ça marche aussi dans l'autre sens? L'homme a-t-il besoin de se soumettre aussi à sa femme pour grandir lui-même? Bien sûr que oui, Paul parle de soumission mutuelle, se soumettre les uns aux autres. Donc tout en acceptant de recevoir, eh bien la femme doit continuer aussi à servir son mari pour que lui grandisse. Le mari doit se soumettre, c'est-à-dire recevoir le service de sa femme, ce que Dieu fait de sa femme, parce qu'il en a besoin. Lui-même, pour grandir. Paul simplement n'en parle pas dans ce texte parce que la femme au service du mari, c'était déjà le cas. C'était même à sens unique. Donc il n'a pas besoin de venir accentuer ce point-là. Mais Paul vient juste rectifier, ramener l'équilibre, la complémentarité que Dieu a toujours voulu entre l'homme et la femme. Ce texte d'Éphésiens 5, c'est le moment où dans la Bible, Dieu vient renverser les conséquences du péché dans la vie du couple. C'est le moment où Dieu prend comme base, comme exemple, la vie de l'Église, ce que nous devons vivre en Église, pour montrer comment en fait cela s'applique à toute la vie entre croyants et croyantes, entre disciples, et donc aussi dans le couple, si les deux membres du couple sont disciples du Christ. La Bible ne dit pas de manière unilatérale « soumettez-vous au pasteur » parce que le pasteur a besoin de ses frères et sœurs en Christ pour pouvoir grandir. La Bible ne dit pas de manière unilatérale « soumettez-vous au conseil de l'Église » parce que les membres du conseil de l'Église ont aussi besoin de leurs frères et sœurs en Christ pour grandir. La Bible ne dit pas de manière unilatérale « Femme, soumettez-vous à votre mari », parce que le mari a aussi besoin de sa femme si elle est une sœur en Christ pour pouvoir grandir. Mais la Bible nous dit « Parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. » C'est en vivant ce service mutuel, cette autorité mutuelle, cette soumission mutuelle que nous pourrons alors vivre certaines des merveilleuses promesses que nous donne l'apôtre Paul, notamment dans cet épître aux Éphésiens au chapitre 4 au verset 13, où Paul nous dit, après avoir parlé du service mutuel, il nous dit « ainsi et seulement ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. » L'unité, la croissance spirituelle, manifester, refléter le Christ dans ce monde, c'est bien là tout le projet de Dieu pour son peuple, pour sa famille, pour son Église, pour nous. Eh bien cela passe par le service mutuel, l'autorité mutuelle et la soumission mutuelle. Alors on en reparlera aux habitués de notre Église à la rentrée, mais pour pouvoir vivre cette autorité et cette soumission mutuelle, eh bien, nous avons commencé ici même un travail de discernement et de reconnaissance des dons, des ministères, des appels, des services de chacun et de chacune. Alors on ne le fait pas avec tout le monde à la fois, parce que déjà j'aurais du mal à m'organiser sinon, mais on le fait aussi avec ceux et celles pour qui c'est le moment dans leur cheminement avec Dieu. Parce que pour en passer par là, eh bien, ça demande quand même d'avoir avancé un minimum en maturité spirituelle et en connaissance de Dieu. Mais certaines personnes sont rentrées dans ce discernement. Et quand ce discernement sera terminé, eh bien, nous aurons alors l'occasion de reconnaître les dons et les services de ces personnes. On le fera publiquement lors de notre culte pour qu'il y ait une vraie reconnaissance de toute l'Assemblée et que tous ici, nous sachions ce que nous pouvons recevoir de ces personnes parce que Dieu leur a confié ces dons-là, leur a confié ce service-là. Alors nous le reconnaissons et nous nous y soumettons parce que Dieu nous le donne pour que nous grandissions tous en Église. Nous désirons accompagner tous nos membres dans ce chemin parce que nous reconnaissons que Dieu nous a donné les uns aux autres afin de pouvoir vivre l'unité que Dieu désire pour nous, afin aussi de grandir en maturité spirituelle, ça veut dire à la ressemblance du Christ, et le tout afin de manifester, de refléter, de rendre visible le Christ dans ce monde. Voilà notre mission. Alors ainsi s'achève notre parcours de prédication sur la relation fraternelle. L'Église, c'est avant tout un peuple que Dieu a désiré, qu'il a rendu possible à la croix en Jésus-Christ, pour enfin unir ce peuple en donnant son Saint-Esprit à chacun et chacune des croyants. Ce peuple doit vivre selon un principe central qui éclaire tout le reste de nos relations, c'est l'amour mutuel, réciproque. Aimez-vous les uns les autres. Nous pouvons mettre en pratique cet amour en veillant les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien, ainsi qu'en priant avec persévérance les uns pour les autres. Nous devons aussi rendre visible cet amour en préservant notre unité et donc en vivant en paix les uns avec les autres. Mais pour ce faire, pour grandir à l'image du Christ, afin de le refléter, de le rendre visible dans ce monde, eh bien Dieu nous a rendus complémentaires. Et il nous encourage donc à recevoir le service les uns des autres et donc à se soumettre les uns aux autres. J'espère que ces quelques prédications qui ont nourri une partie de cet été nous aideront à mieux vivre et mieux préserver ce beau cadeau de Dieu qu'est la communion fraternelle. En tout cas, je souhaite que le Seigneur continue à faire son chemin en nous-mêmes, en chacun d'entre vous, en chacune de nos communautés également, si vous êtes de passage pour des vacances et que vous allez ensuite rentrer chez vous, retrouver peut-être une autre assemblée, d'autres frères et sœurs en Christ, une autre église. Que cela nous aide aussi également, localement, sur Angoulême, à changer nos rapports, nos relations entre les églises locales, en prenant conscience que Dieu ne donne pas tous les dons à une église locale, mais il donne tous les dons à son église. Nous avons donc besoin de tous nos frères et sœurs pour grandir à l'image du Christ. Amen.